Allume la science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ces mots.
Allume la science.
Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans Allume la science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité des laboratoires de l'Université de Montpellier et de ses partenaires. Et cette semaine, nous vous proposons un petit remake de Jacques Brel. Mais dans notre version à nous, vous ne trouverez pas que des marins dans le port d'Amsterdam, mais aussi des métaux lourds, des hydrocarbures, du béton, des lumières artificielles, du bruit, bien sûr, beaucoup de bruit. Et si nos marins chantent, mangent, boivent et dansent, ils trimballent aussi dans leurs bateaux de petits occupants clandestins bien planqués dans les multiples cachettes que recèlent un navire. Alors comment ces espèces exotiques s'adaptent-elles à ce drôle d'écosystème qu'est un port? Quelles réponses adaptatives inédites peuvent-elles produire? S'hybrident-elles avec les espèces locales? Bref, vous l'aurez compris, s'ils sont carrefour des hommes et des marchandises, les ports sont aussi carrefour d'espèces et peuvent être à ce titre de véritables laboratoires à ciel ouvert. On en parle avec notre invité, Nicolas Bierne. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue dans Allume la science. Vous êtes donc chercheur à l'ISEM, l'Institut des sciences de l'évolution de Montpellier.
C'est bien ça, oui.
Et vous avez publié avec votre collègue Frédéric Viard un article intitulé « Rendez-vous urbain en bord de mer, les ports comme laboratoire de terrain darwinien pour étudier l'évolution marine à l'anthropocène ». J'ai tout
bon ? Oui, c'est ça. Juste, il y avait deux autres auteurs qui sont Fanny Touchard et Alexis Simon, qui sont respectivement doctorants et postdoctorants.
À l'Université de Montpellier aussi ?
Oui.
D'accord.
Enfin, Alexis est maintenant aux États-Unis, un autre postdoc.
Merci de les citer. Alors, comme chaque semaine avec moi pour tenir le gouvernail de cette interview, Aline Perriot.
Bonjour.
Bonjour Aline. En seconde partie d'émission, ce sera le troisième et dernier volet de notre mini-série consacrée au LIRM. Cette fois-ci, c'est Alexandre Pinloup qui vous fait découvrir le département d'informatique. Alors, toutes les démonstrations que vous avez pu entendre dans ces trois reportages seront présentées ce samedi sur le campus Saint-Priest lors de la grande journée porte ouverte du LIRM à l'occasion de la fête de la science. On reste sur la fête de la science avec Agnès Pesanti du service de la culture scientifique qui nous rejoindra en fin d'émission pour nous donner le programme complet de cette grande manifestation annuelle. Allume la science, vous avez le programme, c'est parti.
Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0 moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56, 55...
Alors, pour commencer, on va contextualiser un petit peu votre étude. Donc, quelles conditions particulières on trouve dans un port, en particulier pour la faune sous-marine, justement ?
Ben, en fait, vous l'avez très bien introduit. Il y a plusieurs facteurs environnementaux qui sont différents entre un port et l'environnement naturel. Il y a des facteurs qu'on appelle abiotiques, donc plutôt physiques, comme la lumière, le bruit, le substrat sur lequel peuvent se fixer les organismes marins. La pollution, les produits chimiques de diverses natures. Et il y a une autre partie de l'environnement qu'on appelle biotique cette fois, c'est la composition en espèces. Donc on en reparlera ensuite, mais la composition en espèces dans les ports est assez différente de ce qu'on trouve dans le milieu naturel autour des ports.
Justement, une des particularités importantes des ports, c'est qu'on y retrouve beaucoup plus d'espèces non indigènes qu'ailleurs, donc jusqu'à 20% selon les espèces, contre moins de 1% dans les océans. Comment est-ce qu'elles sont arrivées là, ces espèces non indigènes ?
Voilà, donc la particularité des ports, c'est effectivement d'avoir beaucoup d'espèces non indigènes. Et donc, le coupable identifié immédiatement, c'est le trafic maritime. Donc, les espèces sont... introduites par les activités de transport.
Et est-ce qu'on sait où exactement, plus précisément, sur un bateau, elles se logent pendant
le
transport ?
Oui, il y a deux endroits principaux. Il y a les eaux de ballast, dont beaucoup d'entre vous ont dû entendre parler. Donc les navires à vide se remplissent d'eau pour remplacer le poids des marchandises. Et lorsqu'ils chargent leurs marchandises, ils libèrent l'eau dans l'océan, dans la mer. Et donc, à cette occasion, quand ils chargent l'eau, tout ce qui se trouve dans l'eau est mis dans les ballasts. Alors, ça va être des organismes planctoniques ou des organismes macroscopiques, mais qui ont une phase planctonique lors de leur cycle de vie. Voilà. Et c'est comme ça qu'ils sont mis dans les ballasts. Et quand les bateaux déchargent les autres ballasts à un autre endroit, eh ben, les larves sont répandues principalement dans le port où se trouvent les bateaux.
Et on évoquait aussi le biofouling, oui, pardon. Le biofouling,
voilà, donc le biofouling, il n'y a pas trop de traduction en français. On appelle ça des salissures marines. On a gardé le mot fouling. C'est tous les organismes qui vivent fixés sur les coques des navires. Alors, ça peut être à l'extérieur de la coque, mais il y a toujours plein d'infructuosités sur une coque de navire où des organismes tels que des moules ou des huîtres ou des acidies, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais c'est des sortes d'invertébrés qui vivent fixés aussi souvent sur les navires. En Bretagne, on appelle ça les pissous. Et puis en Méditerranée, on appelle ça, je ne sais pas trop, en fait, il y a le bijou qui est connu à Sète, puisqu'il est dégusté. Voilà. Et donc là, c'est les adultes, en fait, qui vivent dans ces creux. Mais en fait, dans les ballasts aussi. Je ne sais pas si vous voulez que j'en parle.
Si vous pouvez développer, oui.
Donc en fait, moi, ça ne fait pas si longtemps que ça, en fait, que je travaille sur les introductions marines par les navires. Et ce qui m'a vraiment surpris, c'est que dans les ballasts, les larves se métamorphosent, forment des populations adultes qui vivent vraiment dans les ballasts. Et il ne faut pas voir juste les larves, en fait. C'est des populations adultes, c'est plein de moules, d'huîtres, de crabes.
Elles vont passer leur vie...
Et qui passent leur vie, voilà, dans le ballast.
Ok. Alors, donc le rôle des bateaux de plaisance, il a été exploré assez récemment, comme les bateaux de commerce. D'ailleurs, est-ce que les plaisanciers, ils ont conscience de jouer un peu les transporteurs pour tous ces clandestins?
Ah, c'est une bonne question. Je n'ai pas la réponse. Il faudrait leur demander. Il se trouve qu'il y a un projet actuellement... par des collègues de notre laboratoire. Le CEM, c'est des économistes, en fait.
Oui, le Centre d'économie de l'environnement de Montpellier.
Voilà, c'est ça, avec notamment Hélène Révalette. Et ils ont fait des enquêtes pour essayer de savoir si les plaisanciers sont conscients de ça. Mais je n'ai pas encore la réponse.
D'accord, donc à suivre. Quelles sont les conséquences pour la biodiversité portuaire alors de ces arrivées massives d'espèces exotiques? Est-ce qu'elles représentent une menace?
Oui, c'est aussi un sujet d'étude, mais il y a plein de raisons de penser que ce sont des menaces. Comme c'est un point d'entrée, vous imaginez quand même 20% des espèces sont non indigènes. Donc toutes ces espèces peuvent devenir des espèces invasives, en fait, qui profitent d'être dans un nouvel endroit pour prospérer.
Juste une petite précision, on parle d'espèces non indigènes, on parle d'espèces invasives et d'espèces exotiques. Est-ce que les trois correspondent à la même chose?
Oui, alors moi, je ne suis pas un très bon élève. J'avoue, j'utilise un peu les différents termes. Mais ma collègue Frédéric Viard, elle n'aimerait pas que je réponde ça. Donc, non indigène, ça ne précise pas que l'espèce pullule, en fait. C'est juste une espèce qui ne devrait pas être là.
D'accord.
Et qui a été introduite par l'homme. Mais ça ne dit rien
de... Elle n'est pas forcément invasive.
Voilà, elle n'est pas forcément invasive. Elle devient invasive quand elle se met à prospérer et aussi avoir des effets négatifs sur l'environnement indigène, l'environnement local, en fait.
Donc quand on parle de menaces, c'est plutôt d'espèces invasives dont on parle.
Voilà, donc toutes ces introductions peuvent devenir des espèces invasives. En fait, elles profitent d'être mises dans un environnement où elles n'ont plus d'ennemis. Elles n'ont plus leurs prédateurs naturels, elles n'ont plus leurs pathogènes naturels, et donc elles peuvent prospérer. D'ailleurs, on parle des moules, des acidies, mais il y a tout plein d'organismes microscopiques qui peuvent être aussi introduits par les navires. Tous les virus, les microbes, les parasites unicellulaires, multicellulaires, qui se trouvent dans les organismes fixés sur les coques des navires, qui peuvent être introduits aussi. Et là, ça peut faire des gros dégâts. Il y a beaucoup de mortalités marines qui ne sont pas très bien expliquées, mais qui sont sans doute dues à l'introduction de pathogènes non indigènes.
Et on va en reparler.
Et on a évoqué au début, Lucie, dans son lancement, et vous au début, les pressions importantes de la vie portuaire, des conditions de vie particulières. Est-ce que tous les animaux marins sont capables de vivre dans ces conditions? Est-ce qu'il y a une forme de sélection qui va s'opérer sous ces pressions?
Alors, c'est ce qui nous anime, en fait, dans nos recherches. On aimerait comprendre comment ces organismes s'adaptent à cet environnement particulier, qui a aussi changé assez rapidement par rapport à un environnement naturel, donc quelque chose d'assez nouveau pour les organismes. Donc on a des exemples d'adaptation, mais sans doute que certaines espèces peuvent vivre dans les pores sans adaptation particulière au sens des nouvelles mutations génétiques, mais juste par leur, ce qu'on appelle la plasticité phénotypique. Elles ont naturellement une bonne capacité de détoxification, par exemple, et donc elles ne sont pas impactées par les pollutions. Elles aiment bien les substrats qui ressemblent, en fait. Donc plein de raisons de vivre dans les pores sans vraiment d'adaptation nouvelle. Mais il y a aussi des adaptations avec des beaux exemples.
Et on va y revenir dans deux secondes, mais juste avant, en quoi c'est important de comprendre justement l'importance de ces sources de variations adaptatives? J'imagine que c'est la science, mais ouais. En quoi c'est important?
Ben, c'est ça, en fait. Enfin, moi, personnellement, c'est plus de comprendre. Donc, c'est des questions fondamentales, en fait, de recherche fondamentale. Comprendre comment s'adaptent les espèces à un changement environnemental. En fait, au début de ma carrière, moi, j'ai étudié l'adaptation naturelle, en fait, à des variations d'environnement naturel qui sont déjà existantes. Donc, je dois remonter dans le temps en faisant des analyses phylogénétiques. Et c'est des choses qui se passent sur des temps longs. Et là, l'homme est en train de modifier l'environnement à une vitesse vraiment spectaculaire. Et du coup, l'adaptation se fait à une vitesse aussi très rapide. Et donc, le biologiste de l'évolution est forcément intéressé de profiter, en fait, comme une expérience qui se déroule sous nos yeux pour comprendre comment se font les adaptations. Après, le problème, c'est si ces adaptations modifient la composition génétique des populations portuaires et que par hybridation avec les populations naturelles, on modifie aussi la composition génétique des populations sauvages, là, ça va devenir un problème. Par exemple, est-ce qu'on veut que des moules soient pleins de métaux lourds parce qu'elles détoxifient mieux les métaux lourds? Probablement que non. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle l'évolution induite par les activités humaines. Et pour moi, c'est une menace sur la biodiversité potentiellement très importante, négligée parce que difficile à étudier, et en fait cachée, elle se passe sans qu'on s'en rende compte, en fait.
Et justement, pour mieux la comprendre, cette biodiversité portuaire, vous avez aussi besoin de mieux la connaître. Et pour ça, vous faites de l'analyse d'ADN environnemental dans le cadre du projet Marais. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots de ce projet?
Oui, donc ça, c'est vraiment la partie de ma collègue Frédéric Viard. En fait, c'est assez magique, l'ADN environnemental. Il suffit de filtrer de l'eau sur des filtres. Et en fait, l'ADN des organismes qui se trouvent dans le coin est filtré sur le filtre. Donc les organismes, ils perdent des cellules naturellement hein, dans l'eau. Et donc il y a de l'ADN qui se trouve dans l'eau. Une fois que cet ADN est filtré, on l'amplifie, on le séquence. Et puis on compare les séquences à des bases de données. Et ça permet d'avoir en fait la composition en espèces. C'est presque plus rapide que de compter les espèces comme on le faisait avant. Ça présente des biais assez compliqués à mettre à jour. Donc Frédéric, elle est très forte pour ça, de bien faire les choses proprement et d'identifier les biais pour que ça devienne une méthode presque plus puissante qu'avant. Même si le décompte des espèces à la old school, en fait, elle marche très bien aussi. Il ne faut pas arrêter de faire comme ça non plus, quoi.
Alors, votre article, on l'a dit, il s'appelle « Rendez-vous urbain en bord de mer ». Alors, ces rendez-vous, ils ont donné naissance à des nouvelles espèces, par exemple, ou pas?
Alors oui, c'est presque des nouvelles espèces, mais c'est ce qu'on appelle plutôt des lignées, parce qu'on appelle espèces des entités qui ne se reproduisent plus avec les espèces sœurs. Donc dans ce cas-là, ce n'est pas le cas, mais il y a eu des hybridations qui ont formé des lignées ou des races, en quelque sorte, qui vivent que dans les pores. Et notamment, il y a une lignée de moules qui vit que dans les pores, qui est issue d'une hybridation entre une espèce atlantique et une espèce de Méditerranée.
Elle a un nom particulier ?
Ah, alors, on les a appelés les dock mussels en anglais, donc les, okay. Les moules des quais.
Alors, vous évoquez aussi dans votre article l'hypothèse d'une homogénéisation biotique. Est-ce que ça veut dire qu'on va retrouver les mêmes assemblages d'espèces dans tous les ports, finalement ?
Oui, alors c'est aussi un sujet d'étude pour lequel on n'a pas des réponses tout à fait tranchées, mais il semble qu'effectivement, les compositions d'espèces des différents ports soient assez homogènes par rapport à ce qu'on rencontre dans le milieu naturel. Donc il y a quand même des petites différences. Il faut voir aussi que là, depuis le début, on parle de ports. Il y a quand même plein de sortes de ports. Il y a les ports de plaisance, les ports de commerce, les ports militaires, les ports de pêche. Donc, moi, je connais des études sur les ports de plaisance qui ont montré qu'effectivement, les compositions d'espèces étaient assez similaires. Les ports de commerce, c'est plus difficile, en fait, à étudier, mais on est en train de s'y pencher sérieusement. Voilà. Et les ports militaires, encore plus difficile, mais ils peuvent... Les navires militaires utilisent beaucoup de peintures anti-fouling qui sont interdites par ailleurs, donc on peut aussi avoir des adaptations particulières aux ports militaires. Mais donc, du coup, pour une catégorie de ports, je dirais, les assemblages se ressemblent. Mais entre catégories de ports, je n'ai pas la réponse tout de suite, mais je pense que ça peut être assez différent.
En quoi, justement, les ports sont un super terrain d'observation pour vous, scientifiques ? Alors, vous parlez de mésocosme même, mais quelles sont les conditions qui permettent de dire que c'est des laboratoires à ciel ouvert ?
Déjà, il y a ce que je vous expliquais tout à l'heure, que c'est un environnement tout à fait nouveau. Donc, il se passe des adaptations très rapides. Donc, c'est ça qui nous intéresse. Et après, c'est des environnements clos. Il y a beaucoup de ports qui sont fermés par des écluses ou des portes, qui confine les masses d'eau, en fait, avec peu d'échanges vers l'extérieur. Et du coup, ça fait un peu comme une grande piscine où, même si on ne peut pas contrôler les facteurs physiques, comme on le fait en laboratoire, comme on le disait, les conditions se ressemblent quand même entre différents ports, et ça nous fait comme une expérience grandeur nature, à une échelle quand même un peu plus grande qu'au laboratoire. On ne pourrait pas avoir des piscines aussi gigantesques qu'un port dans notre laboratoire.
Et vous parlez aussi de porturisation biologique dans l'article. Qu'est-ce que ça signifie ?
Oui, alors on a voulu donner un mot à ce qu'on étudie, en fait, c'est-à-dire l'évolution des espèces marines dans l'environnement portuaire sous les pressions de sélection dues aux activités humaines. C'est ça qu'on appelle la porturisation biologique. C'est en fait similaire à, par exemple, la domestication, où l'homme modifie une espèce pour que, lorsqu'il la cultive ou il l'élève, avec des adaptations à l'agroécosystème et aussi de la sélection artificielle. Donc là aussi, c'est aussi une forme de sélection artificielle qui n'est pas vraiment voulue, comme dans le cas de la domestication, mais qui ressemble. Il y a aussi d'autres mots qui ont été inventés, comme la pestification. Là, la pestification, c'est l'adaptation des pathogènes et des parasites des espèces cultivées. Donc, en sélectionnant les espèces cultivées, en passage, on a aussi sélectionné les pathogènes et les parasites pour être plus virulents, pour contourner les résistances qu'on avait sélectionnées. Et donc, ça modifie la composition génétique d'un pathogène naturel qui devient un pathogène d'agroécosystème.
Et du coup, on parle de ce qui se passe dans les ports depuis tout à l'heure, mais est-ce que ces espèces introduites ou ces espèces qui sont ici d'hybridation, elles peuvent s'en échapper de ces ports et en sortir pour aller impacter aussi l'équilibre de la biodiversité alentour ?
Oui, alors c'est vraiment la question qu'on se pose in fine. Comme je vous disais tout à l'heure, donc les ports sont des points d'introduction. Et donc, si ça peut être le point de départ d'une espèce invasive qui va avoir des effets négatifs sur l'écosystème. Donc, cet échappement, en anglais, ça s'appelle spillover. C'est vraiment quelque chose qui préoccupe les scientifiques. Et donc, ça, comme je le disais aussi, les espèces invasives, ce n'est pas forcément des moules ou des sionnes, c'est aussi des pathogènes. Donc voilà, c'est des points d'entrée à de nouvelles maladies qui peuvent faire vraiment beaucoup de dégâts sur les populations naturelles. Il y a aussi un autre processus qui nous intéresse, ça s'appelle la pollution génique. Donc c'est quand la lignée de porc reste dans le porc, mais transmet des gènes aux espèces naturelles par hybridation. Et là, ça peut transformer la composition génétique des populations naturelles aussi.
Un grand merci à vous, Nicolas Bierne, pour toutes ces explications. Je crois qu'on ne regardera plus les porcs de la même manière. Et on passe maintenant à notre séquence reportage. Et c'est toi, Aline, qui t'es rendue au département informatique du LIRM cette semaine.
Oui, c'est ça, tout à fait, Lucie. J'ai rencontré Alexandre Pinloup, enseignant-chercheur au LIRM en informatique et responsable adjoint du département. Alors, si vous aussi, vous vous demandez parfois à quoi peuvent bien servir la théorie du calcul, la science des données, l'intelligence artificielle, la bioinformatique, le traitement de l'image ou encore le génie logiciel, il nous explique, exemple à l'appui, en quoi l'informatique s'immisce partout dans notre quotidien.
Alors, au département info, on est 200 chercheurs, enseignants-chercheurs. On est répartis en 15 équipes de recherche. Et au sein de ces 15 équipes de recherche, on couvre un large domaine de la recherche en informatique en général. On peut découper ça en trois grands domaines, on va dire. Une partie des équipes s'occupe de la théorie du calcul. Une autre partie vont s'occuper de la science des données, de l'intelligence artificielle, de la bioinfo, du traitement de l'image. Et enfin, une dernière partie s'occupe du génie logiciel. Alors, on peut peut-être prendre un exemple d'une des démonstrations qui sera proposée lors des 30 ans du LIRM, justement. Parmi les démos, on va vous proposer une présentation de ce qui va se faire avec avec les codes correcteurs d'erreurs. Donc l'idée, c'est que lorsqu'on a de la communication qui va vers des satellites, par exemple, forcément le message qu'on envoie, c'est un message d'une série de bits de 0 et de 1. Et ce message, il peut être bruité, on peut avoir des interférences. Et par conséquent, lorsque le message il arrive dans le satellite, il faut bien évidemment réussir à le traiter. Et donc pour ça, même s'il est bruité, on va avoir un système de code correcteur d'erreur qui va faire en sorte que le message va être corrigé à l'arrivée automatiquement. Alors jusqu'à un certain point, hein, s'il y a trop de bruit, ça ne sera pas faisable, mais en général, on y arrive. Et donc ça, lors des 30 ans du LIRM, on aura une démo qui sera basée à l'aide d'un jeu de cartes qui s'appelle le Double et qui vous montrera comment est-ce que ce code correcteur d'erreur il est mis en œuvre et comment est-ce qu'on arrive à corriger les messages même s'ils sont bruités. Alors le Double, c'est un jeu que beaucoup de gens connaissent, hein. Ceux qui ont des enfants, ils connaissent. C'est un jeu de cartes où on a une série de cartes et le but du jeu, c'est que quand on prend n'importe quelle paire de cartes, on a toujours une seule image en commun, un seul dessin en commun sur cette paire de cartes. Et l'idée qui est derrière, c'est de vous montrer qu'en fait, comment est-ce que ce jeu de cartes il a été construit. C'est à base de résultats mathématiques qui montrent qu'en fait, on est capable, à partir d'un certain jeu de symboles, donc je ne sais plus combien il y en a exactement dans le jeu du Double, mais on est capable de construire ensuite un ensemble de cartes de telle sorte que deux cartes prises au hasard auront toujours un seul et unique symbole en commun, et c'est grâce à ça qu'on peut ensuite, c'est derrière ça que se cache la théorie du code correcteur d'erreur qui permet de montrer que même si on a un certain seuil d'erreur dans un message, on peut le corriger automatiquement. Dans le cadre de ce qu'on fait aussi dans nos recherches en IA et en sciences des données, on a un projet qui s'appelle Morphonet, qui est développé au LIRM. C'est un projet grâce auquel les chercheurs ont réussi à découvrir comment les cellules embryonnaires pouvaient communiquer entre elles. Donc on pourrait imaginer au départ que c'est plutôt de la biologie que de l'informatique. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les scientifiques biologistes ont, on va dire, photographié, pour être simpliste, photographié des cellules à différents stades de leur développement embryonnaire. Et à l'aide d'un logiciel qu'on a développé au LIRM, qui s'appelle Morphonet, on a réussi à reconstruire l'évolution de ces cellules au cours du temps dans un logiciel qu'on peut ensuite, grâce auquel on peut naviguer au sein de ces cellules avec un casque de réalité virtuelle. Et donc quand on met ce casque sur les yeux et qu'on utilise le logiciel, on peut retracer toute l'évolution, voir les cellules individuellement, et on voit grâce à ça comment est-ce qu'elles communiquent entre elles. Et ils ont réussi à montrer que dans certains cas, il y avait des cellules qui discutaient de manière lointaine, c'est-à-dire qu'il y avait la discussion se faisait à l'aide de processus chimiques au sein de nos cellules, mais des cellules qui étaient loin pouvaient discuter entre elles. Et dans d'autres cas, on voyait que c'était des cellules qui étaient très proches, qui discutaient entre elles. Et donc c'est grâce à ce système-là qu'on a pu découvrir ça.
Et je rappelle donc que pour célébrer ces 30 ans, le LIRM profite de la fête de la science pour vous inviter à découvrir ses locaux et le travail des chercheurs lors d'une grande journée porte ouverte qui aura lieu ce samedi. Et on reste sur la fête de la science avec notre invité de dernière minute. Et cette semaine, c'est Agnès Pesanti qui nous présente le programme de la fête de la science. Bonjour Agnès.
Bonjour.
Alors pour commencer, peut-être un petit rappel, la fête de la science, qu'est-ce que c'est ?
Oh là là, alors la fête de la science, c'est vraiment un très grand rendez-vous, je dirais même un événement désormais incontournable, qui parle de science, bien sûr. Bon, en fait, c'est surtout pour le public, le grand public et les scolaires, c'est l'occasion vraiment de rencontrer les acteurs de la recherche. C'est vraiment plus que jamais l'occasion de tisser des liens, de les renforcer dans la relation science et société, de montrer ce qui se passe dans les labos, de montrer l'état de la recherche et de voir in situ, en venant sur les différents événements proposés, eh bien, ce que font les scientifiques au plus près.
Alors ça s'étale sur combien de temps ?
Alors cette année, l'événement s'étale du 7 au 17 octobre sur la France, dans toute la France. Et à Montpellier, dans le département, il y a plusieurs grands rendez-vous.
Alors, donc il y a une thématique chaque année. Est-ce que tu peux nous parler de la thématique 2022 ?
Alors effectivement, cette 31e édition sera l'occasion de rassembler toutes les générations autour d'un des plus grands enjeux de l'humanité, le changement climatique, le réveil climatique. Voilà. Il est quand même désormais avéré que nous faisons face à un bouleversement planétaire avec l'explosion du thermomètre, la sécheresse, les catastrophes naturelles, on l'a vu cet été. Et tout cela pourrait très bientôt devenir la norme. Alors les effets du réchauffement climatique se font désormais ressentir dans notre quotidien et on perçoit bien que la prise de conscience est forte, y compris chez les jeunes. Et ils sont de plus en plus nombreux à être sensibles aux impacts sur la nature, sur les ressources naturelles, sur la biodiversité ou sur la santé. Donc c'est vraiment une thématique qui est axée sur ce thème-là, cette année.
Alors cette année, comme les autres années d'ailleurs, l'UM joue un rôle, enfin l'Université de Montpellier joue un rôle particulier dans cette fête de la science dans l'Hérault.
Eh bien, comme chaque année, depuis la 6e année consécutive, l'Université de Montpellier coordonne l'événement à l'échelle du département, mais implante également un village des sciences sur le site de la faculté d'éducation de Montpellier, qui est tout près du stade Philippides. Donc là, rendez-vous samedi 8 et dimanche 9, de 10h à 18h non-stop.
Qu'est-ce qu'on va y trouver alors dans ce village des sciences ?
Déjà, on va pouvoir se balader librement dans le grand gymnase, dans les salles de cours, dans les amphis, etc. Et puis on va pouvoir voir des stands, rencontrer des scientifiques, participer à des ateliers, des démonstrations, des jeux, des conférences, une expo également, sur des thématiques scientifiques et des sujets très variés, mais évidemment avec un focus tout particulier sur la thématique.
Alors, on enchaîne, comme on l'a dit, ça ne dure pas que ce week-end. Ça va durer, enfin, c'est sur plusieurs sites d'abord, pardon, à Paul-Valéry aussi.
Alors, oui, effectivement, l'université Paul-Valéry, en tout cas le site de Saint-Charles, ouvre ses portes pendant 3 jours, du 7 au 10 octobre. Et on va pouvoir, là aussi, retrouver des scientifiques. Alors, on est plutôt en sciences humaines et sociales, mais ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des sciences. Donc on va pouvoir retrouver tout un tas de gros rendez-vous sur le site Saint-Charles. Il faut y aller, ça va vraiment être très bien, je pense.
Et la semaine prochaine, donc le CNRS est de la partie, c'est ça ?
Le CNRS est de la partie le samedi 15 octobre de 13h30 à 16h30. Le CNRS invite le public à voir ce qu'il se passe derrière les portes de ses labos sur le campus de la Route de Mende, avec une opération qui s'appelle « Enquête de science ». En 2 mots, enquête.
Et on termine avec le zoo du Lunaret.
Et on termine le samedi 15 octobre toujours, de 10h à 17h30. Cette fois, effectivement, c'est au parc de Lunaret qui fait son festival des sciences. Donc, même chose, un programme riche, une journée inédite, gratuite, accessible à tous, qui va mêler recherche, acteurs scientifiques, associations naturalistes à rencontrer sur place. Il faut y aller également. Et puis, je fais aussi un petit focus sur Saint-Gilles-du-Fesque, qui pour la première fois organise une belle programmation avec un festival qui s'appelle Planète Vivante. Et là, rendez-vous le 13 et le 14 octobre, vendredi 14 octobre.
Merci beaucoup Agnès.
Merci beaucoup, à bientôt.
Allume la science, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Adeline Flock pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez branchés.
Allume la science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ces mots.
Allume la science.